Place publique.
Et si l'année 2018 était celle de tous les records pour l'horlogerie suisse, en janvier, les exportations de montres ont fait un bond spectaculaire, une croissance à deux chiffres qui doit beaucoup au marché chinois très demandeur. Reste que la reprise n'a pas sonné pour tout le monde, notre décryptage dans un instant. L'État de Neuchâtel se serre plus que jamais la ceinture. Même si l'adoption d'un budget hier soir est un signal encourageant, le plus dur semble à venir, notamment pour les logopédistes, visés eux aussi par une mesure d'économie. Point de la situation après 18h30. Les prisons bernoises ne répondent plus aux normes. Certains établissements comme à Bienne sont en état de délabrement avancé. En tout, le canton devrait investir des centaines de millions de francs. On sera en dernière partie d'émission avec le chef de l'office bernois de l'exécution judiciaire, Thomas Frey.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
L'horlogerie est-elle repartie pour la gloire? On est tenté de le penser, en tout cas si on regarde les derniers chiffres en matière d'exportation. En janvier, les exportations horlogères ont bondi de 12,6% à 1,6 milliard de francs par rapport à la même période l'an dernier. Alors un grand merci à la Chine et à Hong Kong, principale destination des montres suisses. Malgré cette croissance à deux chiffres, la Fédération horlogère reste calme, pas d'euphorie au programme. On écoute l'analyse de Jean-Daniel Pache, il est le président de la Fédération horlogère suisse.
Tout d'abord, nous voyons que la dynamique de la fin 2017 se poursuit en 2018 avec une hausse des exportations. Cependant, je ne me focaliserai pas trop sur un seul mois. On sait que d'un mois à l'autre, il peut y avoir de grandes variations. Décembre 2017 était presque à zéro. Aujourd'hui, on est à plus 12. Donc, il faut quand même voir l'évolution sur une certaine durée. Ceci dit, ça nous fait évidemment plaisir de voir que les exportations repartent à la hausse, tout en étant conscient que certaines entreprises horlogères n'ont pas encore retrouvé les chiffres noirs et souffrent encore. On espère évidemment que l'évolution en 2018 va se poursuivre et profiter à un maximum d'entreprises horlogères suisses.
Si on se concentre sur les chiffres qui concernent l'Asie, notamment la Chine et Hong Kong, on voit des bons spectaculaires par rapport à l'an dernier. Plus 44,3% en Chine, plus 21,3% à Hong Kong. Comment expliquer un pareil bond ?
La situation s'est bien stabilisée à Hong Kong, après quand même des baisses assez fortes durant plusieurs années. Donc cette stabilisation se poursuit. Hong Kong profite également de la croissance économique chinoise, puisque des Chinois vont faire leur shopping à Hong Kong. Et concernant la Chine, la situation également s'est bien stabilisée depuis presque 2016, on peut le dire ainsi. Le niveau de vie en Chine augmente, donc le potentiel de clientèle pour l'horlogerie suisse aussi. Et il est vrai que nos produits restent très attractifs pour la clientèle chinoise.
Donc de quoi augurer de bons prochains mois ? C'est une tendance lourde, selon vous ?
On reste confiant pour l'ensemble de l'année 2018, qui devrait rester positive.
Hormis l'exception notable de la France, avec aussi une augmentation substantielle, le reste des marchés européens et américains est en retrait. Est-ce qu'au final, Jean-Daniel Pache, l'horlogerie n'est-elle pas en train de devenir trop dépendante des marchés asiatiques qui semblent à eux seuls tirer la croissance dans cette ampleur?
L'Asie, depuis déjà pas mal d'années, peut-être même plus de 10 ans, l'Asie forme plus de 50% du marché d'exportation pour l'horlogerie suisse. Donc c'est une tendance qui se poursuit. Les potentiels sont malgré tout encore très élevés en Asie. On a parlé de la Chine, mais si je pense à l'Indonésie, aux Philippines, au Vietnam, on voit qu'il existe également des potentiels pour le futur. J'aimerais aussi relever des potentiels en Amérique latine. On parle du Mercosur. Si on arrive à conclure un accord de libre-échange, on pourrait également voir là nos exportations augmenter. L'évolution est peut-être moins spectaculaire en Europe, puisque ce sont des marchés matures, mais qui restent malgré tout des destinations très très importantes pour notre branche.
On parle des exportations, ce n'est pas encore un synonyme de vente. On ne parle pas non plus des retours de vente ou encore du niveau des stocks. Est-ce que pour ces autres indicateurs, les retours de la part de vos membres sont aussi encourageants ?
Les marques, je crois qu'on fait leur travail, en tout cas celles qu'ils devaient le faire au niveau des stocks. Alors il y en a peut-être encore ça et là, mais je crois qu'il y a un grand travail qui a été fait au niveau des stocks. Concernant les retours, il y en a eu également, puisque des rachats de stocks ont eu lieu, mais je dirais que les retours, c'est un phénomène assez permanent, donc c'est pas nouveau en soi que des montres reviennent en Suisse, donc c'est pas un phénomène totalement nouveau. Mais effectivement, on reste confiant pour l'avenir, malgré tout. Mais il faut continuer de travailler parce qu'on est aussi sensible à l'évolution conjoncturelle et à des troubles géopolitiques. On sait que les choses peuvent changer très vite.
Jean-Daniel Page, si on parle des segments de montres, on voit que les montres de moins de 200 francs continuent leur chute libre. Qu'est-ce que vous dites aux fabricants de telle gamme de prix? Est-ce qu'il faut cesser et passer à autre chose?
Janvier confirme également encore une baisse de cette entrée de gamme, mais on voit que la situation s'améliore, donc je dirais que la baisse est plus faible que l'année passée, donc c'est encourageant. Je crois que c'est important que l'horlogerie suisse reste présente dans tous les segments de prix. On doit offrir aux consommateurs du monde entier des prix dans toutes les gammes pour garder notre leadership, pour garder également la maîtrise des technologies. Donc je crois qu'il faut continuer de travailler dans ce domaine-là parce qu'il existe un marché pour la montre suisse entrée de gamme.
Et d'ailleurs, on en profite, vous parlez de technologie, il faut garder la maîtrise des technologies, quelle que soit la gamme de prix. Que dire du Swiss Made par rapport à cette dernière tendance en matière d'exportation? Est-ce que le Swiss Made a eu une influence sur ce bond, somme toute, spectaculaire par rapport aux valeurs auxquelles on était habitués ces derniers mois?
C'est difficile à dire parce qu'on est encore dans la phase transitoire. C'est difficile à dire si le Swiss Made est déjà répercuté dans ces chiffres de janvier. À terme, on est persuadé que le Swiss Made va générer plus d'activités industrielles en Suisse. On a déjà des exemples au niveau de la sous-traitance. On le voit aussi dans les importations de composants qui sont en baisse, à peu près de 8% par rapport à 2016. Ce sont des signes encourageants et cette baisse des importations pourrait aussi être due au Swiss Made.
Avec nous pour commenter ces chiffres d'exportation, Michel Janot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialisé dans l'horlogerie, vous dirigez le bureau d'information de la presse horlogère, une agence indépendante, on le souligne. Alors une croissance à deux chiffres, mais malgré tout un optimisme mesuré hein, du côté de la fédération horlogère, la prudence règne. Est-ce que Jean-Daniel Page a raison?
Je pense que oui, la raison d'être prudent, parce que ces chiffres de janvier, bon, ça c'est qu'un seul mois, donc c'est difficile de tirer des conclusions. Et effectivement, il y a des chiffres un peu surprenants, notamment la Chine, vous en avez parlé, 44% d'augmentation, c'est difficilement explicable, personne s'y attendait. Alors certes, il y a un effet probablement de Nouvel An chinois qui, cette année, est en février, il était en janvier l'an dernier, donc on peut imaginer que cet effet a joué, mais il faut rester prudent, je pense.
La tendance reste quand même positive, on en parle depuis plusieurs mois.
Oui, alors la tendance est clairement positive, mais on n'est plus du tout dans l'euphorie de ces peut-être 3 ou 4 dernières années. Il y a 3-4 ans, quand on avait des augmentations clairement à deux chiffres. Là, c'est le cas cette année en janvier, mais je pense pas qu'il faille imaginer que ça va se poursuivre sur ce même rythme.
Mais qu'on se représente bien ce que ça signifie, plus 44% du côté de la Chine, 1,6 milliard d'exportations en janvier, c'est des chiffres quand même assez abstraits pour l'auditeur, pour moi-même. C'est quoi? C'est des productions qui ont dû être dopées ces derniers mois? C'est des emplois en plus ces dernières semaines? Qu'est-ce que ça représente?
Bon, c'est un redémarrage timide après un coup de frein très sévère, avec quand même pas mal de suppressions d'emplois, près des coûts dans les commandes, etc. Et ça redémarre petit à petit. On voit bien qu'on est quand même sur une tendance plus positive, mais on voit aussi que tout le monde est très prudent, que les fournisseurs attendent avant de réengager, etc. Donc, prudence.
Et on est toujours avec Michel Janot dans Place Publique pour commenter les derniers chiffres d'exportation de l'horlogerie qui sont impressionnants, en tout cas si on regarde la croissance à deux chiffres du côté des marchés asiatiques. Michel Janot, est-ce qu'il faut s'inquiéter d'une certaine manière de notre dépendance aux marchés asiatiques?
C'est jamais effectivement très confortable de dépendre à ce point de cette région du monde. Jean-Daniel Page le disait tout à l'heure, c'est plus de 50%, mais en fait, c'est en termes géographiques plus de 50%, mais la clientèle asiatique représente pratiquement le 80% des ventes de l'horlogerie suisse. Donc effectivement, dépendre à ce point d'une région du monde, c'est très très inconfortable. Maintenant, toute l'horlogerie du luxe dépend beaucoup de l'Asie et continue à espérer très très fort en l'Asie.
Et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence, cette dépendance ?
Mais on voit bien que certaines décisions politiques peuvent influer assez rapidement et brusquement sur des comportements commerciaux. Et donc, pour ne parler que de la Chine, il suffit de l'introduction d'une taxe et tout s'écroule assez rapidement. Donc, effectivement, c'est inconfortable, mais en même temps, c'est là qu'il y a les réservoirs de croissance les plus importants.
Qui dit exporter des montres, on l'a dit, ne signifie pas encore les vendre. Est-ce que les autres indicateurs, comme l'état des stocks, comme les retours de vente, à votre connaissance, sont aussi positifs ?
Alors je crois que les stocks sont effectivement à des niveaux largement inférieurs à ce qu'ils étaient dans les pires périodes, c'est-à-dire il y a une année et demie ou deux ans. Maintenant, on voit que les horlogers apprennent peu de l'histoire et on peut imaginer que déjà pour ces résultats chinois en janvier, certains ont certainement à nouveau un peu trop rempli les stocks et les mauvaises habitudes reviennent très très vite.
Michel Janot, pour conclure, il y a un segment de montre qui fait parler de lui, c'est ces montres d'entrée de gamme autour de 200 francs qui ne finissent pas de plonger, même si apparemment la baisse est un peu ralentie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Effectivement, chacun. La Fédération de l'industrie horlogère se préoccupe depuis 20 ans de la perte de substance des montres bas de gamme. Et à mon avis, la Suisse a d'ores et déjà perdu la guerre de la montre bas de gamme. On le voit bien, il se vend probablement 1 milliard de montres bas de gamme. Les Swatch est à peu près à 10 millions. Donc c'est déjà 1%, c'est rien du tout. Donc je pense qu'effectivement, on peut mettre une croix sur ces produits-là.
Michel Janot, merci pour votre éclairage, toujours précieux. On le rappelle, vous êtes un journaliste expert du domaine de l'horlogerie. Vous dirigez le bureau d'information de la presse horlogère. Bonne soirée.
Merci.
Place publique.
Le canton de Neuchâtel tient un budget depuis hier soir, mais les soucis financiers ne sont pas résolus pour autant. Vous le savez, l'État est tenu de diminuer drastiquement ses dépenses. Parmi les mesures d'économie particulièrement décriées figure la diminution des prestations en faveur des orthophonistes. 2 millions de francs en moins d'ici 2021. Alors bien sûr, la profession s'inquiète. Tous les élèves neuchâtelois atteints de troubles du langage ne seraient plus pris en charge à temps, sauf si leurs parents, bien sûr, ont les moyens de payer eux-mêmes. C'est donc possiblement l'avènement d'un système à deux vitesses. Des inquiétudes relayées au Grand Conseil par plusieurs élus. Malgré tout, le gouvernement maintient sa volonté d'économiser dans ce domaine. La conseillère d'État en charge du dossier, Monica Merefti, l'a fait savoir ce matin et Adrien Juvet lui a demandé si elle ne craignait pas quand même de rallonger avec ces mesures d'économie le temps d'attente avant la prise en charge des enfants. Les logopédistes estiment que ce temps d'attente peut varier de 6 à 12 mois. Monica Merefti.
Alors tout d'abord, on ne peut pas affirmer une liste d'attente dans toutes les régions du canton. Ça dépend beaucoup des communes, ça dépend beaucoup des cercles scolaires. Mais en règle générale, j'aimerais juste affirmer que nous avons aujourd'hui un problème financier dans notre canton. Le Conseil d'État a posé un programme de législature avec 40 mesures d'économie et l'orthophonie est touchée dans ces demandes d'économie. Mais j'affirme que nous souhaitons continuer d'offrir à la population de ce canton et notamment aux élèves qui ont besoin d'un accompagnement en orthophonie, des prestations de qualité, des prestations adéquates qui correspondent à leurs besoins. Néanmoins, pour ma part, ça ne doit pas être un sujet tabou. Moi, je pense qu'on peut s'interroger sur plusieurs manières de faire, comment on dispense les prestations, de quelle intensité, et puis se poser aussi la question de la densité des orthophonistes installés dans notre canton.
Maintenant, les logopédistes neuchâtelois se défendent de pratiquer des tarifs plus chers que dans d'autres cantons. Ils affirment même pratiquer les tarifs horaires les plus bas de Suisse romande pour les élèves dysphasiques. N'est-ce pas, du coup, injuste de les mettre encore plus sous pression ?
Vous savez, sur le coût horaire, on peut se battre longtemps, hein ? Pour ma part, ce qui m'est important, c'est de réaffirmer que la qualité des prestations que les orthophonistes neuchâteloises dispensent, c'est une qualité qui est irréprochable. Maintenant, il est évident que la corporation va défendre leur position d'aujourd'hui et ça fait plaisir à personne, à moi en dernier, de devoir faire des économies dans ce domaine-là. Néanmoins, je les invite vraiment à venir à la table de négociation, à discuter avec mes services, avec la chef de département sur comment on continue de dispenser des prestations de qualité, mais à un coût qui doit être réduit à l'avenir.
Vous avez parlé tout au début des mesures d'économie que le Conseil d'État a mis sur pied, mais Est-ce qu'on ne pourrait pas dire quand même que c'est un mauvais calcul de porter atteinte à l'action préventive des logopédistes, sachant que les troubles du langage touchent environ 8% des jeunes entre 0 et 20 ans? Est-ce que c'est vraiment le bon calcul d'économiser ici?
Sur la liste des mesures qui accompagnent le programme de législature, il n'y en a aucune qui est bonne. Je veux dire, quand on doit couper dans les prestations, il y a toujours 36 000 bonnes raisons pour les maintenir. Et évidemment que c'est un appauvrissement du domaine concerné. Je le constate avec une force relativement présente dans d'autres économies que je devrais faire dans mon département. Mais je crois ce qui est important quand même de dire, c'est que dans ce canton, on a besoin d'avoir une fois le courage de réformer nos structures. Ce n'est pas parce qu'on a fonctionné pendant des dizaines d'années d'une certaine manière que c'est interdit de s'interroger sur la manière et sur la qualité ainsi que sur l'intensité des prestations qu'on délivre. Et l'orthophonie est une prestation qui, déjà depuis de nombreuses années, fait débat. Tout le monde se souvient encore du psychodrame dans les années 2010 avec le budget d'orthophonie qui a complètement explosé. Depuis là, on a établi des conventions avec les orthophonistes privés. On a créé des centres d'orthophonie avec qui on a aussi des contrats de prestations. Et je pense vraiment qu'il est important de temps à autre de se redire, mais voilà, on se met autour de la table, la société évolue, les besoins de la société évoluent, et nous aussi, en tant que praticiens, on doit évoluer dans la manière dont on dispense nos prestations.
Mais c'est quand même un pari risqué, cette remise en question, dans le sens où les cas non traités, pris en charge tardivement, vont coûter encore plus cher.
L'orthophonie est un des outils que nous avons à disposition pour accompagner les élèves qui ont besoin d'un accompagnement spécifique et notamment dans la pédagogie spécialisée. Mais c'est un des outils. Il y en a beaucoup d'autres et je pense véritablement qu'on peut aussi travailler en complémentarité. Je l'ai dit aussi au niveau du Grand Conseil que nous travaillons en réseau. Je pense que c'est important d'aujourd'hui de considérer l'élève en difficulté comme personne avec des multiples besoins différents pour pouvoir pallier à son trouble.
Mais ça veut dire du coup que la charge, la responsabilité qui repousse sur les épaules des enseignants, elle est encore plus lourde du coup?
Les enseignants sont la première personne de contact pour l'élève. Les enseignants sont ceux qui, aujourd'hui, malheureusement, c'est le constat qu'on doit faire, n'enseignent plus seulement, mais ont effectivement plusieurs tâches dans l'accompagnement d'un élève tout au long de sa scolarité. Évidemment qu'il y a une partie qui peut aussi incomber aux enseignants, mais ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Par exemple, tous les exercices de lecture, de prononciation, déjà aujourd'hui, les enseignants travaillent aussi cet aspect-là en classe, mais évidemment que les orthophonistes sont les spécialistes des troubles du langage, donc c'est des partenaires comme d'autres professions dans la scolarité obligatoire d'un enfant.
Maintenant, si on regarde du côté des parents, est-ce que vous n'avez pas peur de créer un système à deux vitesses où seuls les parents les plus aisés pourront apporter une aide à leurs enfants? Vous n'avez pas peur de créer un système à deux vitesses?
Alors, en aucun cas, parce que les prestations reconnues comme nécessaires pour accompagner un enfant resteront gratuites pour les parents. Le canton y est contraint parce qu'il a signé notamment l'accord intercantonal sur la pédagogie spécialisée. Donc là, il n'y a véritablement rien à craindre. Et déjà aujourd'hui, il y a des prestations qui ne sont pas reconnues, mais dont les parents font appel aux orthophonistes en payant la prestation parce que eux, ils estiment que c'est nécessaire pour leur enfant de les accompagner avec un traitement orthophonique.
Monica Berefti qui répondait à Adrien Juvet. Alors pour réagir à ces propos, nous accueillons Émilie Godby. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes logopédiste, vice-présidente de l'association romande des logopédistes diplômés, section Neuchâtel. Alors on l'entend, Neuchâtel vivrait au-dessus de ses moyens, vit au-dessus de ses moyens, c'est ce qu'on entend souvent. Plus question de tabou en matière d'économie, y compris dans votre domaine. Les logopédistes doivent aussi participer à l'effort et se remettre en question quelque part. Est-ce que vous entrez en matière?
Alors ça fait de nombreuses années qu'on entre en matière parce que ça fait longtemps que les orthophonistes travaillent conjointement avec l'État pour faire des économies. pour rationaliser les coûts, pour réfléchir aux durées de traitement, à l'intensité des traitements. Donc, ça fait longtemps qu'on est partenaire de l'État dans ces discussions-là, et on a quand même réussi à économiser énormément ces 5-10 dernières années, 5 dernières années en tout cas. Madame Merefti le disait, il y a des conventions qui ont été signées entre les orthophonistes du canton et l'État, et je pense que c'est quelque chose à laquelle on réfléchit depuis longtemps, donc on est étonné d'une coupe aussi drastique et annoncée un peu à brûle-pourpoint.
Qu'est-ce qu'elle représente cette coupe? Parce que Monica Merefti le dit au Grand Conseil ce matin, les mesures renforcées d'orthophonie, les troubles graves seront toujours assurés par le canton. On a l'impression à l'entendre que l'essentiel est sauf.
Alors l'essentiel est sauf peut-être pour elle, mais nous on regarde ça plutôt du côté 2 millions d'économies sur le budget de l'orthophonie, c'est un quart du budget. Donc si on regarde, ça fait 25% des prestations qui vont devoir être amputées. D'une manière ou d'une autre, ça on ne sait pas encore exactement comment le Conseil d'État souhaite appliquer cette économie.
Et combien d'enfants touchés du coup ?
Eh bien actuellement, par rapport au nombre de prises en charge qu'il y a sur le canton, ça reviendrait à 780 enfants qui ne seraient pas suivis en orthophonie.
Monica Merefti souligne que la situation peut varier quasi du tout au tout selon la commune, selon le cercle scolaire, voire même selon là où le thérapeute. Il y a quand même des marges de progression au niveau de la maîtrise des coûts à ce niveau-là.
Alors ça, tout à fait, on l'entend. Après, elle parlait aussi du fait qu'il n'y avait pas de tabou dans l'orthophonie. Or, on a quand même demandé à pouvoir consulter les chiffres, à pouvoir essayer de réfléchir sur ces questions-là, chose qui ne nous a pas été possible de faire parce qu'on n'a jamais reçu ces fameux chiffres.
Donc des chiffres qui parlent de la situation dans une commune, combien d'offres, est-elle surnuméraire et compagnie. Ça, vous n'avez pas accès à ces informations?
On n'a pas eu accès à ces informations-là. On préconise en tout cas, et toutes les orthophonistes du canton, malgré peut-être des disparités au niveau des pratiques, réfléchissent à une rationalisation des coûts et sont conscientes que le canton doit économiser déjà depuis longtemps.
Donc est-ce qu'il y a un problème aussi chez certaines orthophonistes ou logopédistes, ces mots sont synonymes, on va quand même le dire,
oui.
Est-ce qu'il y a un problème chez certaines qui finalement appliqueraient des mesures renforcées automatiquement ou demanderaient l'aide de l'État à tous les coups? Est-ce qu'il y a, au niveau des thérapeutes, des pratiques qui sont à remettre en question?
Alors c'est peut-être à discuter, mais pour ça il faudrait un peu plus de transparence. Et puis effectivement, on est tout à fait ouverte à travailler en conjointement à l'État à la réflexion sur ces économies. Par contre, nous, ce qui est très très important pour nous, c'est qu'on veut pas perdre en qualité de prestation. Et puis par rapport à ce que Madame Merefti disait tout à l'heure, conserver une gratuité, éviter une orthophonie à deux vitesse, réfléchir, enfin, c'est des choses qui sont déjà en place, c'est des choses qui ont déjà été réfléchies, et puis on ne voit pas du tout comment on va arriver à ces 2 millions d'économies, même en faisant très attention à tout ça.
En diminuant peut-être le nombre de logopédistes qui exercent dans le canton, elle parle d'une densité qui est peut-être à remettre en question, peut-être dû au fait que Neuchâtel abrite une chaire de logopédie à l'université.
Alors, parler de densité de prestations orthophoniques, ça revient à faire des comparaisons intercantonales. Or, actuellement, étant donné le système de l'enseignement spécialisé dans chaque canton, il est quasiment impossible de faire des comparaisons intercantonales. Et puis, certains autres cantons offrent des services pluridisciplinaires, des classes de langage, des écoles spécialisées qui ne sont pas présentes sur le territoire neuchâtelois. Donc, on ne peut pas réfléchir en nombre d'orthophonistes.
Pour conclure, il y a un groupe de travail qui va se mettre en place dès le mois prochain avec des représentants de votre profession, si ce n'est pas vous-même. Ça va être difficile du coup de négocier, vu que, à vous entendre, il n'y a pas de marge de négociation élevée de votre côté.
Alors justement, on aimerait recevoir un mandat pour ce groupe de travail parce qu'on n'aimerait pas non plus participer à scier la branche sur laquelle on est assise. Mais par contre, on est tout à fait ouverte à discuter et à réfléchir sur la rationalisation des coûts.
Émilie Godby, merci beaucoup d'être venue nous parler du point de vue donc de la profession des logopédistes. On le rappelle, vous êtes vice-présidente de l'association romande de la section neuchâteloise des logopédistes diplômés. Bonne soirée.
Merci à vous aussi.
Place publique.
Il faut moderniser et assainir les prisons du canton de Berne. Certaines ne répondent plus du tout aux normes, notamment à Bienne. Un rapport publié lundi détaille les mesures qui s'imposent pour ces 15 prochaines années. Avec nous pour en parler par téléphone, Thomas Freitag, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le chef de l'Office bernois de l'exécution judiciaire. Manifestement, alors, à lire le rapport, les standards minimaux ne sont pas respectés. De plus, les ressources en personnel ne sont plus adaptées, sans parler des travaux urgents de réfection. C'est dire que la situation actuelle est critique et pas tenable. Comment, selon vous, on en est arrivé là, hein, surtout que les problèmes ne datent pas d'hier?
Il faudrait peut-être un peu différencier. Le cri d'alarme concerne surtout quelques établissements de détention du canton de Berne. Donc c'est pas tous les établissements qui sont concernés de la même façon, mais il y en a quand même deux trois dont la prison régionale de Bienne qui se trouve effectivement dans un état vraiment qui ne répond plus aux normes, aux standards demandés aujourd'hui en 2017 ou 2018. Donc là, pour cette raison-là, nous avons élaboré cette stratégie pour les 15 années à venir.
Si on s'arrête sur Bienne, hein, qui fait partie de la région de nos auditeurs, le rapport décrit un bâtiment en état de délabrement avancé. Hein. Il évoque même un risque considérable. De quel risque faites-vous référence? À quel risque?
Bon, vous voyez, le bâtiment, il date de quelques centaines d'années derrière. Donc, c'est vraiment un bâtiment qui...
Il a plus d'un siècle.
Il ne répond plus notamment aux standards de la sécurité, mais aussi les cellules ne sont pas assez grandes, donc la taille de la cellule. On n'a pas de place pour recevoir vraiment de la visite comme il faut. Il n'y a pas de place pour proposer du travail ou des pièces pour travailler aux détenus. Donc là, il manque vraiment beaucoup dans cet établissement.
Le mot est fort, hein, risque considérable. C'est pour qui? Pour les prisonniers eux-mêmes? Pour la population, le personnel?
En fait, c'est la situation aussi, la situation de travail pour les collaborateurs. Ce n'est pas un établissement où c'est vraiment très agréable de travailler parce que on m'a montré aussi des photos des murs où on se pose la question, est-ce que c'est vraiment encore, ça respecte vraiment encore les normes de la sécurité? Mais en même temps, évidemment, on se trouve en Suisse, on peut encore garantir, donc c'est pas, je suis pas là pour dire à la société bernoise qu'il y a un risque tout de suite d'une fuite ou quelque chose comme ça. Mais il faut réagir maintenant et pas demain.
Le départ de Moutier dans le canton du Jura, hein, toujours dans la région, va aussi accentuer le problème du manque de places de détention. Le rapport mentionne qu'en tout, le canton de Berne doit trouver d'ici ces 15 prochaines années 200 nouvelles places. Compte tenu de ce que vous nous avez dit sur la prison à Bienne, sur ces places qui manquent, on est d'accord qu'il n'y a pas d'autre solution que de construire un nouvel établissement. D'ailleurs, est-ce que l'emplacement de ce nouvel établissement est connu ?
L'emplacement, il n'est pas connu. Donc notre rapport, il fait deux propositions. Soit on reste où elle se trouve actuellement, la prison, donc en centre-ville. Mais là, il faudrait vraiment maintenant encore bien discuter avec les spécialistes. Est-ce que on a assez de place pour construire au lieu actuel une nouvelle prison? Et là, il y a aussi le bâtiment en soi, il est aussi protégé. Donc là, il y a plusieurs questions qui se posent. Nous allons chercher, en collaboration avec le canton de Berne, le service des bâtiments, un autre endroit, mais qui doit se trouver en proximité de la ville, en proximité de la police, en proximité des procureurs. Ça, c'est clair.
La stratégie du canton de Berne en matière d'établissement pénitentiaire, d'exécution judiciaire, prévoit deux variantes, et quelle que soit la variante choisie, elle va coûter très cher. Hein. Vous mentionnez que le statu quo coûterait déjà 300 millions de francs. Si on faisait tous les travaux nécessaires et que toutes vos demandes étaient acceptées, est-ce qu'on a une idée du montant que cela coûterait ?
Pour le moment, nous n'avons pas présenté les estimations des coûts de cette facture, mais c'est clair. Hein, donc, si vous comptez qu'une place de détention aujourd'hui, selon les standards, selon les chiffres de l'Office fédéral de justice, on parle d'un coût de 400 à 500 000 francs pour une place de détention en milieu fermé. Donc, vous faites le calcul, hein, donc ça fait beaucoup si vous mettez ça fois 100 ou fois 50 ou fois 150. Et en plus, la recommandation est claire, donc les établissements nous allons construire pour l'avenir, ça seront des établissements avec une taille, une grandeur pour au minimum 100 détenus ou plus.
C'est-à-dire que le futur gouvernement, puisque les élections approchent, n'aura pas vraiment beaucoup le choix. Il va falloir investir dans les prisons, surtout que Berne a des obligations avec les autres cantons hein, par rapport au Concordat. Et le canton de Berne a aussi exploité à fond les autres solutions d'exécution de peine. Hein. On parle notamment des bracelets électroniques, des arrêts domiciliaires. Il n'y a pas vraiment le choix. Ça va coûter des centaines de millions de francs pour le canton de Berne prochainement.
Oui, très probablement, ça sera le cas. Ben, l'autre solution, ça serait encore de réduire l'offre, mais en tenant compte d'une population qui est toujours croissante, en tenant compte du nombre de jugements qui est en augmentation depuis des années, et puis en tenant compte d'une pratique de libération conditionnelle qui est plus en plus sévère depuis quelques années, on n'a pas tellement le choix. Donc ça c'est les faits. Et ça, c'est notre travail aussi de présenter les faits aussi à la politique. Et puis après, il y a des choix quand même. Donc c'est pour ça aussi nous avons décidé de faire des scénarios, donc de plusieurs variantes et pas seulement une. Donc comme ça, quand même, la politique, elle aura le choix de trancher.
Pour terminer rapidement, Thomas Freitag, le canton de Berne n'est pas le seul à devoir repenser, rénover ses établissements pénitentiaires. Le plus grand établissement vaudois, Bochu, est dans la tourmente. À Fribourg, une soixantaine de députés ont demandé cette semaine la fermeture de la prison centrale en basse ville. Mmh. Manifestement, le système actuel n'est plus adapté aux besoins, comme vous expliquez.
Oui, c'est vrai, il faut le dire comme il est. Donc on a des établissements, on a des prisons, pas seulement dans le canton de Berne, aussi ailleurs. Après, bien sûr, il y a certains cantons qui peut-être, où les finances permettent aussi de faire comme il faut, d'autres un peu moins. Après, bien sûr, on est toujours aussi en concurrence avec les bâtiments pour les écoles et autres, ça c'est clair. Mais on a, en Suisse, un peu partout, en tout cas dans beaucoup de cantons, on a... des infrastructures pénitentiaires qui datent quoi, qui datent depuis des années et puis voilà quoi.
Un retard donc à combler et ça va coûter cher. Merci beaucoup Thomas Freitag d'être venu nous parler. Merci. Donc de ce plan stratégique pour l'exécution judiciaire pour ces 15 prochaines années dans le canton de Berne. On le rappelle, vous êtes le chef de l'office bernois de l'exécution judiciaire. Bonne soirée.
Merci.
Place publique.